Bonjour à tous, bienvenue dans Bulle d'art, votre petite dose de poésie mensuelle. Aujourd'hui, on va discuter à propos de Van Gogh. Vous êtes sur Radio Campus Amiens, 87.7 FM. D'une houle bleu ciel, un visage ocre nous dévisage presque. Le teint pâle et un regard accusateur nous transmet tout autant que ses traits allongés les images d'une vie longuement difficile. Pourtant, les vaguelettes qui l'entourent sont toujours claires et l'oreille bien tendue. La tragédie démarre le 30 mars 1853 aux Pays-Bas, dans la petite commune de Zundert. Enfant, il n'a le temps de grandir qu'il est séparé de sa famille. À 11 ans, il quitte un foyer qu'il ne cessera de rechercher au cours de sa vie. Par les amours, bien sûr, et par la famille aussi. Les premiers seront déçus, tandis que les seconds peineront à germer. Théo, son frère, sera la seule branche de son arbre familial avec laquelle il cultivera du lien. En tant qu'artiste, son génie ne lui sera jamais reconnu de son vivant. Sa souffrance ainsi que son talent jouissent d'une malheureuse indifférence. Alors, même qu'il brûle d'un intense désir de reconnaissance, non pas seulement de son travail, mais aussi de son être, en quête perpétuelle d'expression individuelle, il choisit la peinture pour pouvoir se définir. Mais lorsque l'on mène une double existence, en portant le nom de son frère défunt, un an avant notre naissance, tout semble moins facile. La souffrance invite la misère, affective, vous l'aurez compris, mais pécuniaire aussi. Quand il peint une paire de souliers en 1887, c'est toute une dureté qui nous vient à l'esprit. Les lacets défaits d'une chaussure éventrée peinent à retenir un cuir abîmé qui n'a pour seul souhait que de s'effondrer sur le sol. Celle-ci cependant résiste. Ce n'est pas le cas de sa moitié, qui est allée à côté et nous donne à voir où ça se mêle. Il consacre une partie de son œuvre à décrire la dureté du travail. Des vignes rougies par les cultivateurs, sans donner pour survivre, à l'air froid d'un hôpital et de son dortoir. C'est là qu'il tente à donner une portée réaliste à ses peintures. Bien que certains le considèrent aujourd'hui comme un post-impressionniste, Van Gogh était un réaliste. Il voulait décrire le monde dans toute sa véracité, avec sa douleur dans les couleurs chaudes, mais également la beauté d'une nature dont on ne perçoit jamais tout l'écho, sublimé par des traits rendus visibles. Ces ciels tangibles, constitués de matière et en mouvement constant, nous rappellent avec soin à notre condition d'humain. Non, nous ne sommes point de ces dieux omniscients qui peuvent se vanter d'apercevoir l'exhaustivité du réel. En se penchant sur la nuit étoilée, l'imprévisibilité du ciel démontre d'un mobilisme chaotique. La mer astrale, comme un fleuve vital, nous offre des courants surprises, symbole d'un hasard inhérent à la condition humaine. Voilà donc, mis à jour dans la nuit, le génie d'un homme qui voulait contempler la vie. C'est peut-être bien là son péché, que, tenant une vision d'ensemble sur le monde, il s'est élevé trop haut dans les cieux, brûlant du même coup ses ailes de cire. Enfermé chez les hommes, il devient la proie d'une société mégalomane. Celle-ci ne trouve d'excuse, pour cacher sa propre médiocrité, que de faire de lui un aliéné. Elle lui fit connaître les déconvenues d'un ostracisé, une sentence pour lui avoir tendu un miroir sans filtre. Il a donc côtoyé les exils de tous bords. Exilé à Arles, il regrette son pays et tente de le voir dans tout ce qu'il mire. Le jaune, couleur allégorique du sentiment d'absence de sa patrie, la patrie au sens d'Ulysse et de son petit village, image d'un foyer et de sa cheminée fumant qui lui manque tant. Si je m'autorise ce détour chez Dubellé, c'est pour mettre au jour ces mots de Gauguin. Tout le midi pour lui devenait la Hollande. Le soleil d'abord, mais aussi le ciel en passant par les bottes de foin et les champs dont elles proviennent. Les tournesols, bien sûr, apothéose de son amour pour le jaune, de ce vide noir qui le remplit tant. Mais de quoi ce vide est-il plein ? mai 1889, lors de son entrée à l'hôpital pour aliénés de Saint-Rémy de Provence, tout change. Il se retrouve prisonnier de son génie et se réfugie dans son art pour échapper à la solitude. Ses tableaux vont se teinter d'une noirceur significative. Dans les tons, premièrement, troquant le bleu pour un violet plus inquiétant, les ciels de plus en plus sombres comme celui qui surplombe l'église d'Auvers-sur-Oise, où la route avec cyprès et ciel étoilé démontre d'une nouvelle approche du monde. Les représentations d'un hasard noir, malin et cynique, deviennent presque inquiétantes. Elles transparaissent secondement dans les symboles qu'elles représentent. Les cyprès, symbolisant le deuil et la mort, suggèrent qu'il a tracé un trait avec son enthousiasme d'antan, acceptant par la même occasion un retour inéluctable vers la terre. Un thème qui prend une place centrale sur sa toile, cyprès avec deux silhouettes de femmes. Les arbres mortuaires, par leur prépondérance, semblent plus vivants que jamais. Ils aspirent le décor en lui donnant sa couleur et confisquent notre attention aux défauts des femmes qui marchent. Ces images, à la sensation macabre, ouvrent le chemin à son ultime œuvre. Synthèse de sa désillusion et de l'incompatibilité de ses volontés, être reconnu et décrire la réalité. Le champ de blé au corbeau est divisé en deux. La partie inférieure, le champ doré, rappelle la mélancolie d'un pays distancé. Ce jaune caractéristique chez Van Gogh porte les espérances chaleureuses de l'amour et du foyer. La moitié supérieure, un ciel violacé et presque noir, écrase la couleur du blé comme pour tirer les rideaux d'une pièce qui a déjà bien duré. De ce sombre, sortent des corbeaux qui semblent venir vers nous, survolant du même coup le champ. La mort s'invite de ce fait au milieu de la scène, pour en finir avec un chemin distordu qui semblait se perdre à l'horizon. Peu après l'avoir achevé, il facilita son passage dans l'au-delà d'une balle dans le ventre en 1890. Pour Antonin Artaud, c'est la société qui l'a tiré. Une autre face de Van Gogh se présente alors à nous, non plus celle à l'oreille tendue, mais celle de l'homme à l'oreille coupée, un autoportrait froid, à en croire sa coiffe et son manteau, est teinté d'un rouge sanglant.